le temps buissonnier. Le temps buissonnier partage aujourd'hui avec Didier Denens et Pef pour leur 5e album en commun. Cette fois, c'est Papa, pourquoi t'as voté Hitler, paru aux éditions Rue du Monde, qui fête ses 20 ans. Carmela et son ami le Grillon Negrito sont revenus dans notre petit village de Haute-Ariège après leur tour de France, des meetings et quelques gardes à vue que leur a valu leur impertinence et leur slogan mis en pratique « Soyons ingouvernables ». Chers auditeurs, chères auditrices, vous vous souvenez sans doute que ces deux agitateurs m'avaient laissé des enveloppes avec des chansons et des textes. Eh bien, j'en ai retrouvé une dans ma boîte aux lettres qui avait dû se perdre. Je vous la lis donc, je crois qu'elle est toujours d'actualité, qu'elle est de tous les temps. Nous ne rentrerons au village qu'après les élections, car nous craignons d'être encore arrêtés par la police, malgré le jeune âge de Carmela et mon espèce, insecte, insecte noir et brillant, mais insecte. Petit commentaire de ma part, je vois que c'est encore Negrito le Grillon qui a pris la plume. Carmela devait être occupée à des tâches plus concrètes pour l'accueil de certains candidats. Je reprends leur lettre. Nous sommes donc à 15 jours du premier tour des élections et nous constatons qu'aucun candidat n'envisage sérieusement le vote pour les mineurs à l'âge où ils se sentent prêts, selon la formule de notre camarade Anna qui a 12 ans et se passionne pour la politique. À cette date, ne sachant pas quel est le ou la présidente qui sera élue, nous souhaitons te confier deux textes qui seront toujours des armes indispensables pour rester libre et digne. Le premier est de Frantz Fanon. Connais-tu Frantz Fanon ? Nous en doutons, mais tu iras voir sur ton ordinateur qui était cet homme si nécessaire aujourd'hui encore. Nous citons Frantz Fanon. C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéales d'un monde humain. Supériorité ? Infériorité ? Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre ? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du toi ? Étant entendu que parler, c'est exister absolument pour l'autre. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité de l'homme blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non, non au mépris de l'homme, non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la liberté. Carmela te fait dire que si tu en veux plus sur Frantz Fanon, tu n'as qu'à lire Peau noire, masque blanc et les damnés de la terre. Le second texte que nous voulons mettre dans ta besace pour t'armer en pensée contre la peur est de Pierre Bourdieu. Lui, tu le connais, j'espère. Et n'oublie pas que la peur ne doit jamais guider ta vie, tes actes et tes renoncements. L'inaction cherche sa justification dans un transfert mutuel de responsabilité qui apparaît comme un échange social d'excuses. Les gens en place renvoient la balle aux simples citoyens qui n'ont rien à perdre. Les simples citoyens aux gens en place qui ne risquent rien. L'un dit qu'il est en train de finir ses études, l'autre qu'il ne veut pas créer des difficultés à sa famille ou à son patron, ou encore qu'il a peur que son passeport ne soit pas renouvelé. Les jeunes disent qu'ils sont trop jeunes et les vieux trop vieux. Pire, il n'est pas rare d'observer une véritable haine à l'égard de ceux qui donnent l'exemple du courage. La peur que chacun a de tous les autres isole progressivement les individus et les groupes les plus actifs dans la résistance au pouvoir. Si on a guère de peine à comprendre cette logique de l'inaction collective qui trouve les conditions de son plein accomplissement dans les occasions extraordinaires créées par la politique de la terreur, c'est qu'on la rencontre chaque jour. Autrement dit, les stratégies les plus efficaces sont celles qui conduisent la majorité silencieuse et terrorisée à découvrir et à montrer sa propre force collective à travers des actions relativement ordinaires, accomplies au même moment par un très grand nombre de personnes concertées, produisent un immense effet symbolique d'abord sur ceux qui les accomplissent et aussi sur ceux contre qui elles sont dirigées. Et pour finir, car nous devons transporter farine et œufs avec des amis pour aller devant un meeting et nos amis nous attendent en bas, alors encore un conseil de Frantz Fanon. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, car il parle de vous. Didier Deninx, PEF, j'ai pris l'ordre alphabétique.
Oui, c'est logique. De toute façon, moi, je ne pourrais pas dessiner s'il n'y avait pas son texte. Alors, on commence par le texte.
Voilà, on va commencer par le texte. Merci, PEF. Même si on va le voir, vos images en disent long. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, quand même, je voulais, avec vous, PEF, sur votre dédicace de ce livre. À mon avis, Jean-Via Croze, 102 ans, survivant du camp de concentration de Dachau et qui commence toujours ses lettres par « Ami, entends-tu ?» Ça en dit long sur la suite de l'histoire. Alors, Didier Deninx, cette histoire, vous l'avez écrite il y a 2 ans à peu près ?
Un petit peu moins, il y a un an.
Papa, pourquoi t'as voté Hitler ? Alors, l'idée est... Alors, on va dire que le livre, à travers l'histoire d'une famille ordinaire et d'un petit garçon, Rudy, qui vit en Allemagne, à Berlin, je pense, avec ses...
Non, à côté de Dachau.
Dans
la banlieue de Dachau.
Voilà, avec ses parents, qui ont un magasin de musique, donc des gens plutôt éclairés, va voir arriver le régime d'Hitler, légalement, par le vote, et s'insinuer dans la vie quotidienne. Eh bien, la terreur. Donc cette histoire qui commence en 1933, le 5 mars 1933, est une histoire qui nous renvoie bien sûr à comment la terreur arrive par des petites choses aussi, et parfois par la voie légale, mais aussi les petites résistances, et notamment celle de la mère de Rudy, qui va être beaucoup plus lucide et beaucoup plus courageuse que son mari, qui lui va se laisser tenter par le vote Hitler pour lutter contre le chômage, dit-il, et retrouver une Allemagne digne et fière. Quand vous l'écrivez, ce texte, est-ce que vous avez aussi, nous enregistrons, je le dis, avant le premier tour même des élections françaises, donc nous ne savons pas le résultat des élections, mais quand vous l'écrivez il y a un an, est-ce que vous avez en tête la future élection présidentielle française ?
Bien sûr, il y a cette élection, cette échéance qui est là, mais c'est pas du tout le moteur de l'écriture de ce texte-là. Le moteur de l'écriture du texte, c'est la conscience et la manière dont on peut le vérifier qu'à certains moments le temps est pas uniforme dans l'histoire. Le temps est pas uniforme et à certains moments on peut voir des accélérations absolument incroyables de l'histoire. Et janvier, février, mars 1933 en Allemagne, on voit véritablement que d'un seul coup, la pendule de l'histoire se met à tourner à toute vitesse et que des choses totalement inimaginables se produisent. La dictature de Hitler s'installe de manière légale après des élections, mais elle s'installe en moins d'un mois. J'étais récemment dans une ville industrielle d'Allemagne qui s'appelle Duisbourg, un port sur le Rhin, et j'ai fait une visite de la ville par des enfants, des petits-enfants de résistants au nazisme, des Allemands qui ont fait les brigades internationales, où il y a eu des morts dans la famille. Ils m'ont expliqué, en 1933, Hitler est élu au mois de mars. Au mois de mai, c'est-à-dire un mois et demi plus tard, il y a la manifestation pour le 1er mai. Les dirigeants syndicaux, le 2 mai, sont arrêtés à Duisbourg, et ils sont pendus en place publique le 3 mai. C'est-à-dire, cinq semaines après l'installation de Hitler au pouvoir, ça y est, la dictature est totalement, totalement installée. Et donc, c'était ça que je voulais saisir dans le texte « Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?» C'est, à un certain moment, des gens qui ont, en toute bonne foi, pris par la propagande, pris par des...
La crise économique,
l'effondrement d'un pays, de toute une série de valeurs, pensent que d'un seul coup, ça peut être rétabli, comme ça, par un coup de baguette magique. Et donc, la baguette magique, c'est un vote. Les femmes et les hommes votent en 1933 en Allemagne. Et en fin de compte, ce coup de baguette magique va être véritablement un fléau. Et donc, c'est la mort qui va venir, mais à très, très grande vitesse.
Alors
très grande
Hitler,
vitesse.
À l'époque, a 288 députés, c'est-à-dire il arrive en tête, mais il n'a pas la majorité. Il n'est pas majoritaire. Il a 83,9% des voix.
Il a pas la majorité et il va trouver l'appui d'un parti, le Zentrum, donc des partis centristes, certains religieux et tout, qui vont faire l'appoint. Et donc, sa dictature va pouvoir s'installer. En plus, il bénéficie d'une provocation. Maintenant, les historiens pensent que véritablement c'est une provocation. Juste avant les élections, il va y avoir l'incendie du Reichstag, donc le parlement allemand, un des symboles de la République de Weimar qui va brûler. Et donc, on va accuser les communistes, on va accuser les syndicalistes, et l'Allemagne va être les gens de gauche, des protestants progressistes et tout, vont être raflés, et l'ouverture des camps se fait là, au printemps 1933. Moi, l'histoire se passe à côté de Munich, et à côté de Munich, il y a Dachau, le camp de Dachau, il ouvre à ce moment-là,
et il est rempli
à ce moment-là.
Voilà, et vous montrez sa construction hein, dans le texte et par l'image. Parfois quand même, j'ai cru, je ne peux pas tout lire, j'avais envie de le lire, notamment les discussions entre le père et la mère de Rudy, qui ne posera la question qu'à la fin du livre, mais on y reviendra. Mais toutefois, il y a des moments où les choses résonnent avec aujourd'hui et en France. Par exemple, à un moment donné, donc c'est Rudy qui parle et qui raconte cette histoire, c'est un enfant qui a une dizaine d'années, je pense. Je jouais dans la rue quand un ouvrier de l'usine Marzel s'est arrêté devant la charcuterie. Il a montré le buste en plâtre à ses copains en rigolant. Là au moins, il est à sa place, au milieu des pieds de porc, des saucisses et du boudin. Et moi, j'entends les fameux banquets saucissons, là, qu'on fait des fachos français, je sais pas comment les appeler autrement, mais preuve, d'ailleurs.
Et on avait...
Vous aviez ça en tête ou c'est pas... des archives?
Non, mais tout simplement, quand on prend les images du quotidien de l'Allemagne, au moment, là, c'est le jour anniversaire de Hitler, et là, il y avait dans toutes les boutiques, partout, il y avait le buste de Hitler, donc certains en plâtre, d'autres en bronze, et ainsi de suite. Donc, vous aviez Hitler qui était démultiplié dans l'espace public, et c'était une obligation d'avoir ça. Et ça s'est passé après l'invasion de la France dans les provinces qui ont été reprises, l'Alsace, la Lorraine, Moselle-Anne, où là aussi il y a eu cette obligation, pas dans le reste de la France, mais là il y avait ces obligations. Et donc j'ai essayé de chercher comment mettre de l'ironie avec ça, et donc c'est de mettre le buste d'Hitler au milieu de la charcuterie sanguinolente. Mais pour cette raison-là, pour simplement un trait d'esprit de quelqu'un qui passe et qui dit au moins là il est à sa place, d'un seul coup c'est le camp pour cette simple réflexion.
Et d'ailleurs on va voir que tout le quotidien est envahi. Cet enfant va aller à la piscine avec ses camarades, et là encore évidemment on va très tôt après l'élection d'Hitler commencer à chasser les enfants juifs.
Des enfants aussi métis. L'Allemagne a été une puissance coloniale. Les colonies ont été redistribuées après la guerre de 14-18, mais il y avait des enfants métis. Et il y avait aussi des enfants métis, un millier à peu près, qui étaient des enfants nés des amours des soldats, des troupes coloniales françaises, avec des jeunes allemandes en 1918-1919. Et dès 1935, Afrique, ces 1000 métis ont été pourchassés afin d'être stérilisés, afin que le sang aryen ne soit pas détruit par la présence de gènes venus du cœur de l'Afrique. Donc on est dans ce monde de folie, mais la folie est la règle de vie dans ce pays. Et le regard de Rudy, c'est justement le regard de quelqu'un qui ne se laisse pas aller à cette folie qui s'est emparée du monde.
Alors, en même temps, le regard de Rudy, c'est intéressant, ce personnage qui a l'âge des lecteurs, hein, à qui est destiné le livre, vers 9 ans, hein, Didier Denex, je pense. Il a un regard d'abord assez factuel, on dirait. C'est-à-dire, il raconte ce qu'il voit. Et l'élément très critique, c'est sa mère. Sa mère qui résiste, sa mère qui analyse les discours, qui analyse les faits.
Et qui est enceinte.
Voilà.
Et enceinte d'un enfant qui va s'avérer être un enfant, une petite fille handicapée mentale. Et donc là, l'enfant handicapé mental, les handicapés mentaux avaient le sort des juifs, avaient le sort des métis. Et on a véritablement là aussi comment une volonté de se séparer de la partie handicapée de l'Allemagne, de la part de Hitler. Et Hitler va même demander le consentement des familles. Et ça va être le premier élément. Ça m'a beaucoup appris. Ça va être le premier élément de grande résistance du peuple allemand. Le peuple allemand a refusé, dans sa grande majorité, à donner, parce qu'il fallait donner les enfants au Reich, afin que le Reich en dispose pour les faire disparaître. Et là, il y a une véritable résistance du peuple allemand et d'organisations protestantes. Beaucoup de protestants ont refusé. Et donc là, c'était intéressant de montrer ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, les plus faibles, il y a véritablement un sursaut dans une partie du peuple allemand pour protéger les plus faibles.
Alors là, j'en viens à l'image avec PEF, parce que à côté, par exemple, de cette page qui décrit trois femmes qui sont des nazis, hein, qui sont des bourgeoises habillées avec des chapeaux, etc., se penchent autour du berceau comme trois mauvaises fées, je ne veux pas les appeler sorcières parce que j'aime bien les sorcières, trois mauvaises fées qui ont l'insigne nazi à leur chapeau d'ailleurs, et qui disent « Les trois femmes sont parties le nez pincé, les lèvres fermées comme des portes de prison et avec des yeux froncés qui disaient « On reviendra ». Et là, c'est terrible cette image, le texte aussi évidemment, mais dans cette image, les cols, les manches, les manteaux, tout est avec des angles terriblement pointus, des angles droits qui rappellent, et on le verra sur une autre image encore plus flagrante à travers les bras des policiers nazis qui chassent et qui donnent l'assaut dans la nuit de cristal, peut-être, je ne sais plus, dans le livre, dans l'album, et qui représentent la croix gammée. Wow. Bref, encore une fois.
Ben oui, c'est une idée qui m'est venue, c'est que quand on sait ce qu'est devenu l'Allemagne sous Hitler, on sait que la machine à broyer, c'était cette roue là, cette roue qui tient dans un cercle avec ses équerres, ces trucs à l'équerre. Et ça, j'ai tenu absolument à ce que partout dans le livre, y compris dans la construction de Dachau, il y a les poteaux en ciment qui s'articulent aussi. Oui. Ils sont au sol encore, mais ils s'articulent. Et il y a aussi dans la photo, c'est une image fixe, mais c'est les actualités dans la salle de cinéma. On voit un soldat de dos qui, c'est un paysage un peu de Russie, de l'hiver, et qui, il y a des ferrailles, et les bouts de ferrailles sont aussi. Donc tout était écrit, je pense, à l'avance, dans ce sigle.
Alors, c'est magistral, hein, parce qu'on peut lire l'image immédiatement. Une autre image au début du livre, juste au moment où donc Hitler vient d'être élu, et le père est dans son fauteuil avec sa pipe, et il écoute la radio. Il n'y avait pas la télé à l'époque, enfin je ne crois pas.
Non, je ne crois pas.
Donc il regarde la télé, il écoute le poste radio, mais il le regarde parce que c'est vrai qu'on regardait le poste radio quand on l'écoutait. Ouais, c'est extraordinaire. Et là, votre image est une métaphore magnifique, puisqu'on va avoir des cercles dessiner. J'imagine que ce sont les ondes.
Les ondes, hein, oui.
C'est ça,
c'est
ou
la
ça a la
propagation,
forme...
la propagation, voilà, la propagation l'inondation invisible.
Ça a aussi la forme des micros. Hein, Et dans ces ondes, c'est comme des gens qui tourneraient dans un tourbillon dans l'eau. Et alors certains ont la main à l'oreille comme pour écouter attentivement, surpris, certains étonnés, certains au contraire, quasiment au garde à vous. Et là, c'est une valse extraordinaire. Quel mouvement dans ce dessin.
C'est-à-dire que, en tant que dessinateur, on fonctionne avec un dessin toutes les 24 secondes et non pas 24 images secondes comme au cinéma. S'il avait fallu faire une séquence, un plan séquence de cette retransmission, la caméra se serait déplacée sur le visage, sur le fauteuil, sur le micro. On entendrait à la radio les éructations d'Hitler. Mais là, quand vous avez une page et il faut illustrer cet événement, il faut faire un gros effort. Je le revendique, c'est un effort de transposition, de ramasser le plus possible d'éléments de façon à donner un condensé à l'image, sans souci exact de... J'ai pas de chef décorateur. Hein. Bon, les images sont coloriées par Geneviève, mon épouse. Oui. Donc, elle est plutôt, elle, chef opérateur. C'est elle qui va donner la tonalité. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que déjà, parce que moi, je connais l'histoire, et que c'est un livre qui raconte cette histoire, je connais l'histoire, je sais comment elle s'est terminée, et je voulais montrer qu'au début, tout était joué d'avance dans mes traits. C'est-à-dire l'embrigadement, avec cette forme de bras en croix, cette danse comme des coupes-coupes, et il y avait aussi dans le tracé, parce que d'habitude j'utilise l'encre de Chine et puis des encres de couleur, là ça a été au crayon, et par-dessus, quand les couleurs ont été apposées, à la mine de plomb j'ai retracé, et à l'estompe, j'ai tout ceinturé, chaque mouvement, chaque visage, chaque coin de paysage, de façon à ce qu'on sente déjà que c'est foutu. Même avant la guerre, ça sent la suie, ça sent la cendre. Ça sent la destruction. Donc ça, on peut pas... je veux dire, je veux bien recevoir toutes les critiques par rapport à ce livre, mais il y a des choses auxquelles je tenais dans le traité graphique qui est aussi un message. Ça dépasse le dessin.
Ouais. Bon, belle...
Oui, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu, j'étais saisi quand j'ai vu les dessins de Pef. Et il y a cette idée-là, c'est-à-dire que c'est un écrasement de l'individualité. Donc, on a des personnages, tous les personnages du décor comme ça, tous les personnages de cette Allemagne qui se sont laissés embarquer dans cette histoire, sont plus des individus, ce sont des parties d'une machine. Et donc, il y a véritablement ce côté mécanique qui définit tous les personnages.
Bravo vraiment pour ce livre, Didier Deninck et Pef, et cette image aussi sur laquelle... alors, je dis qu'il y a presque à chaque page, dans les doubles pages, il y a un petit
vignette.
Encadré d'histoire avec des facsimilés parfois, avec le récit historique, qui est...
En contrepoint,
toujours pour qu'on puisse suivre précisément l'histoire à côté du récit que vous en faites. Il y a ces images aussi de l'Exode, qui renvoient aussi à des images d'Exode aujourd'hui, parce que l'Exode, quel que soit le siècle, quel que soit, c'est toujours ces hommes, ces enfants, ces femmes démunis, au visage fermé, qui semblent avancer difficilement avec le vent face à eux.
Oui, et puis ça rappelle que le cœur de l'Europe a été totalement sillonné par des cohortes de centaines de milliers de personnes, et le peuple allemand a pris la route, lui aussi.
On dit d'ailleurs le nombre 44. De morts du peuple allemand et des destructions de ces grandes villes. Alors, merci pour ce magnifique album qui est paru aux éditions Rue du Monde. Papa, pourquoi t'as voté Hitler? C'est la dernière question, la dernière phrase de l'album. C'est donc après la guerre que l'enfant ose poser cette question. Il faudrait peut-être que les enfants osent la poser avant les élections. Nous, nous sommes après. Alors, je voudrais juste dire deux mots, parce qu'on a très très peu de temps. Tant que je serai là, c'est un album que vous avez illustré, PEF, avec un texte de votre fille, Elsa Ferrier. Et c'est votre femme, comme toujours, depuis toute votre œuvre qui colore vos albums. Et c'est un album pour les tout-petits. Donc tout le monde, c'est comme une ronde, une chaîne. Hein. Le premier qui a peur, c'est l'enfant. Puis la mère le console. Tant que je serai là, il ne pourra rien t'arriver. Puis la mère, elle aussi a peur et c'est le père, etc. Et on va arriver jusqu'à l'univers.
Ah non,
et
bien, pas l'univers. Ah non.
Ah bah, l'univers. L'univers et bien,
si.
Et bien, quand je suis arrivée à la Lune... Eh ben, les larmes sont montées aux yeux. C'est un album pour les enfants de 3-4 ans.
Oui.
J'étais pris par une émotion terrible. C'est un très, très beau livre. Alors, je voudrais dire aussi deux mots, d'aller si vite, d'un petit roman, parce que c'est quelques pages, Mortel Smartphone, nos P, point de suspension de téléphone portable, valent-ils un tel bain de sang? C'est là aux éditions Oscar, jeunesse. Enfin, c'est jeunesse et adulte d'ailleurs. Oui. Et c'est un magnifique petit roman, mais terrible, terrible. Dès le début, je voulais en lire aussi les deux premières pages, parce qu'on ne peut pas le lâcher, sur ces enfants du Congo qui sont esclaves, tout petits, d'abord pris par des gangs pour aller dans les mines, extraire ce minerai nécessaire, indispensable même, au smartphone, qui s'appelle le coltan. Alors vraiment, il faut le lire, c'est magnifique. Enfin, à venir en septembre, un livre magnifique, Petit éloge de lecteur, c'est un inédit qui paraîtra en septembre 2017, et c'est sur la parole finalement aussi donnée aux enfants, vos rencontres que vous adorez tant, et il fait suite à Petit éloge de la lecture qui est chez Folio, ça vaut 2 euros, et vraiment je vous le conseille, et là c'est toujours PEF. Voilà, et pour les adultes qui se passionnent pour Papa, pourquoi t'as voté Hitler, lisez Seul dans Berlin, qui est un livre magnifique sur les mêmes problématiques qui sont dans Papa, pourquoi t'as voté Hitler. C'est de Hans Falada et c'est vraiment un roman que vous lâcherez pas du début à la fin. Même des adolescents, évidemment, peuvent le lire. Je crois qu'il est à portée de tous. Vous l'avez lu, Didier Denotz?
Oui, j'ai lu ça. C'est ça qui m'a donné aussi la sensibilité pour écrire Papa, pourquoi t'as voté Hitler.
Les petits actes de tous les jours, les femmes.
Le quotidien.
Hein, et c'est magnifique. Oui. Voilà. Donc, je suis ravie que vous soyez passé par par ce studio. On s'appellera après les élections pour voir et on l'écoutera avec une oreille différente selon les résultats, c'est clair. Mais en tout cas, tout ce que vous nous donnez dans votre œuvre, PEF, et vous, Didier Denex, pour les enfants ou pour les adultes ou pour les ados, c'est toujours un moyen de garder l'espoir, de rester debout de ne pas baisser ni les bras, ni la tête, ni le regard. Donc pour ça, vous ne pouvez pas imaginer combien je vous en remercie.
Merci.
Eh bien, le temps buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver cette émission avec toutes les références, surtout pour les livres dont je n'ai pas eu le temps de parler suffisamment, sur le site de franceculture.fr, à la page Le temps buissonnier. C'est toute une équipe aussi. Aline Payet, Zénine Rafik, Annie Comier et à la technique aujourd'hui, Jaizan Taous. Le temps buissonnier a filé trop vite, comme d'habitude. Et il est temps de vous laisser au programme de France Culture, mais d'abord avec le premier journal de la journée. À dimanche prochain.